c'est quoi ton petit nom ?
Fréquence Paris Pluriel.
Ça, c'est joli.
C'est le nom d'une fleur.
FPP 106.3, le programme des archives de Fréquence Paris Pluriel, chaque jeudi de 16h à 17h et en podcast sur rfpp.net, rubrique archives.
Je vais consulter mes archives.
Je conserve tout.
Aujourd'hui, dans le programme des archives, la 9e rediffusion de l'année 2004, des captations, des débats autour du film Écrivain des frontières, un voyage en Palestine de Samir Abdallah et de José Reynès, sorti, lui, en 2003. Et je laisse Thomas vous déployer le contenu de ce que vous allez pouvoir entendre jusqu'à presque 17h.
Des frontières, un voyage en Palestine est un film de Samir Abdallah et de José Reynès qui retrace le voyage d'écrivains internationaux venus rencontrer la réalité palestinienne sous l'occupation à l'appel du poète Mahmoud Darwish. À l'occasion de la projection de ce film à l'espace Saint-Michel à Paris, des débats étaient organisés tous les soirs à l'issue des projections. Nous vous proposons sur Fréquence Paris Pluriel d'écouter de larges extraits de ces débats. Aujourd'hui, nous vous diffusons l'enregistrement de la rencontre avec l'écrivain israélien Michel Warshavsky, rencontre qui avait lieu le 27 mars 2004 à l'espace Saint-Michel. On vous prévient et on s'excuse à l'avance que la qualité du son n'est pas exceptionnelle, mais vous comprendrez le sens des propos de Michel Warshavsky. Vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel 106.3.
Soir, j'avais prévu de parler un peu d'actualité, mais après ce film, qui avant tout est un très beau film, j'ai envie de partager avec vous certains sentiments, et après peut-être je parlerai d'actualité. Et avec toutes ces destructions que l'on a pu voir, avec cette souffrance terrible qu'on a pu entendre, et qui est merveilleusement traduite par... comprise et traduite par ces grands écrivains, le sentiment dominant en regardant le film, pour moi en tant qu'Israélien, c'est une immense jalousie par rapport aux Palestiniens. Une immense jalousie, alors que ma vie est confortable, la leur non seulement ne l'est pas, mais elle est à la limite de l'invivable, alors que ma vie est relativement en sécurité, même si, ici et là, mon quotidien est confronté à des attentats. La leur... et dans une insécurité permanente, même si le temps a un sens pour moi, en général, je peux arriver plus ou moins à l'heure à mes rendez-vous, alors que pour les Palestiniens, le temps n'existe plus, parce que l'espace n'existe plus. Et quand il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de temps. Je suis profondément jaloux des Palestiniens. Jaloux parce qu'ils ont des intellectuels. Jaloux parce qu'ils savent parler avec des intellectuels, et écouter des intellectuels. Et pour moi, ces écrivains sont d'abord des intellectuels. Ce n'est pas simplement des gens qui écrivent. C'est des gens qui réagissent au monde par l'écriture, par leur pensée d'abord. Ils peuvent réaliser un véritable dialogue, que ce soit entre écrivains, que ce soit à l'université, que ce soit même avec les hommes et les femmes qu'ils rencontrent, alors que nous n'avons pas d'intellectuels. Nous avons des techniciens de l'écriture, nous avons des techniciens de l'art, nous n'avons pas d'intellectuels. Personne parmi nos grands intellectuels ne serait capable non seulement de dire des paroles similaires, parallèles à ce qu'on a pu entendre de part et d'autre, c'est-à-dire à la fois de la part de cette délégation d'écrivains, mais de la part aussi de ceux avec qui ils se sont entretenus. Je crois que très peu, si ce n'est personne parmi nos grands intellectuels, serait capable de comprendre ce qui est dit. Ce qu'écrit Breitenbach dans sa lettre à Ariel Sharon, qui certainement n'a jamais entendu parler de Breitenbach, et qui ne réagira même pas à la lecture de sa signature. Malheureusement, c'est vrai non seulement pour des militaires, des gens qui ont fait de la guerre leur vie, comme Ariel Sharon et comme la plus de la moitié de notre gouvernement. Mais c'est vrai, y compris pour les, entre guillemets, intellectuels israéliens. Ces noms ne leur disent pas grand-chose, et ce qu'ils disent est totalement incompréhensible à l'oreille de l'intellectuel israélien. Et pour preuve, j'en donnerai une expérience personnelle. Ici à Paris, pendant l'opération Rempart, au tout début de l'opération Rempart, je me trouvais ici à Paris, et j'étais invité à un programme d'une des chaînes de télévision, avec l'ambassadeur d'Israël, mais en duplex avec un de nos trois plus grands écrivains, qui en Israël n'est pas seulement un écrivain, mais une autorité quasi spirituelle, d'une partie importante de la population, en tous les cas de sa partie gauche, Abraham Yehoshua. Et c'était au moment où on tirait sur les ambulances. Et c'est au moment où, pendant quelques semaines, des dizaines d'ambulanciers, de médecins ou de blessés dans des ambulances sont morts, attaqués par les soldats israéliens. Et dans ce duplex, je m'adresse à Abraham Yehoshua, qui se trouvait de l'autre côté du téléphone, en lui disant, en tant qu'intellectuel, en tant que grand écrivain, si toi et Amos Oz, le deuxième de nos grands écrivains, aviez simplement déclaré, vous n'avez même pas besoin de le faire, annoncé publiquement que vous demandez à être dans les ambulances palestiniennes, pour être certain que ce sont vraiment des ambulances et pas des voitures dans lesquelles on cache des bombes et des terroristes, ce qui était l'argument israélien. Donc, pour protéger nos soldats, si toi, Abraham Yehoshua, et toi, Amos Oz, vous aviez fait cette annonce, le jour même, on aurait cessé de tirer sur les ambulances. Et il me répond avec beaucoup de complicité. Soyons des gens mûrs. Il me répond à la télévision, devant tout le monde. Soyons des gens mûrs. Ne faisons pas de la morale. Faisons de la politique. Ça, c'est nos grands, grands intellectuels. Alors, je suis jaloux des intellectuels palestiniens. Je suis jaloux d'une société qui, dans la souffrance, est capable de produire, de créer et de mener un dialogue avec des gens comme ces écrivains qui sont venus s'engager et traverser le mur, j'en dirai quelques mots après, en Palestine. Et je suis jaloux des Palestiniens parce qu'ils aiment leur terre. Et on l'a vu avec ce jeune homme, qui pleurait ses oliviers. Un État qui peut faire ce qu'on a vu à la tronçonneuse, et d'une façon systématique, ce n'est pas un incident isolé, une fois, des dizaines et des dizaines de milliers d'arbres fruitiers, un gouvernement qui peut donner des ordres pareils, et une société qui se tait, et des intellectuels qui sont complices, n'aiment pas la terre. On aime l'idée d'une terre. On en a fait une idéologie, on en a fait un mouvement politique, on en a fait des guerres, mais on n'aime pas la terre. Et effectivement, quand on connaît la société israélienne, les Israéliens n'aiment pas cette terre. Elle est trop arabe, elle est trop jaune, trop grise. Ils rêvent de la Suisse, des grandes forêts, de l'Europe occidentale et centrale. C'est une terre qu'ils n'aiment pas. Et il n'a aucun problème à déraciner des arbres, et à la salir, et à la mutiler. On aime l'idée d'une terre, l'idée d'un pays, mais on n'aime pas ce pays. On aime son nom. Alors ça, pour ça aussi, je suis extrêmement jaloux des Palestiniens. Je raconterai une autre anecdote à propos de la terre. C'était en 1987. Abu Ali Shahin, un des grands dirigeants du Fatah, des prisonniers politiques en général dans les prisons israéliennes, un des fondateurs du Fatah, qui avait été le dirigeant en fait, des prisonniers politiques pendant plus de 15 ans, était libéré, puis assigné à résidence, puis exilé à l'intérieur. Et malgré une grande campagne qui avait été menée en commun d'ailleurs par des Palestiniens et des Israéliens, et une campagne juridique qui avait permis de gagner du temps mais pas davantage, Abu Ali Shahin était déporté au Liban. Quelques semaines, une semaine après sa déportation, nous décidions, le mouvement de solidarité, le groupe de solidarité avec Abu Ali Shahin, de faire une action symbolique pour protester contre son expulsion et d'aller planter des arbres à l'endroit où se trouvait le village dont il était originellement. Il était un habitant du camp de réfugiés de Rafah, mais avant d'être réfugié à Rafah et avant d'être exilé à Dahaniyé, il venait, son origine, c'était le village de Bachit. Et sur le village de Bachit se trouve un village israélien très riche, Aseret,
de ces villages, le Koulak, le propriétaire terrien qui utilise une main-d'œuvre à l'époque arabe et aujourd'hui thaïlandaise, pour cultiver essentiellement des arbres fruitiers, les agrumes, ce qu'on appelle les agrumes de Jaffa, et les avocats qu'on appelle les avocats Carmel. Et donc nous savions, et j'avais fait une enquête préalable, qu'il y avait au cœur de ce village un endroit qui appartenait au Waqf, à la propriété des autorités religieuses islamiques, qui était géré par le Waqf israélien. Et que donc nous avons demandé l'autorisation, et où il restait les restes qu'on pouvait deviner d'une mosquée et quelques tombes. Nous avons demandé au Waqf la permission de planter des oliviers sur l'endroit qui leur appartenait ou qui était géré par eux, et nous l'avons eu. Et nous sommes venus quelques dizaines de Palestiniens et d'Israéliens planter ces oliviers. Un jour, je vous raconterai toute l'histoire, parce que c'est toute l'histoire du conflit israélo-arabe qu'on peut raconter à travers ce qui s'est passé pendant ces quelques heures. Mais évidemment, les habitants du village ont compris rapidement que ces gens qui étaient venus, qui avaient l'air bizarres, Aseret est un village assez isolé, qui n'a pas l'habitude de voir tout d'un coup 3 autobus et de nombreuses voitures privées qui viennent s'installer dans le village et tout d'un coup qui plantent des arbres. Et comme le disait un enfant, mais c'est pas Tou Bichvat c'est la fête des arbres israéliennes. On a dit oui, on l'a fête avec un peu de retard. On comprit rapidement les plus anciens de quoi il s'agissait. Et ils arrivent, demandant à leur femme de leur ramener le revolver. Je me souviens, une espèce de cow-boy immense, avec un immense chapeau de cow-boy, et qui dit « Sarah, allez, amène-moi le... » Comment on va le traduire ? L'objet. Et Sarah Lee qui accourt avec son espèce de gros colt. On se croyait dans un western. Et ils nous entourent, les enfants, les femmes, et surtout les hommes, ces koulaks israéliens, ces paysans riches qui exploitent une main-d'œuvre étrangère parce que toute l'idée de travailler la terre, ce n'est plus qu'un rêve, et essayent de nous jeter dehors et commencent à arracher les plants qu'on avait plantés. Et je me souviens à un moment très précis où se trouvait tout près de moi Nouri Al-Ogbi. Nouri Al-Ogbi est un des dirigeants des Bédouins en Israël. Et comme beaucoup de Bédouins, ce n'est pas un grand bonhomme baraqué, il est petit. Et Nouri était accroupi et planté calmement, tranquillement, son plant d'olivier. Et devant lui, une immense masse humaine qui l'injurie et qui dit « Tire-toi de là et débarrasse-moi de cela ». Et Nouri le regarde et très très calmement en hébreu lui dit « Mais tu es un paysan, tu sais bien que la terre appartient à tout le monde. Ni à toi, ni à moi, ni aux juifs, ni aux arabes, la terre c'est un don de Dieu. Jamais tu ne déracineras un arbre ». Et tellement surpris par cette parole, dont il n'arrivait pas à comprendre le contenu, mais déstabilisé par ce calme et cette assurance de Nouri, c'était un peu sur une pente, il est tombé. Il est tombé. Et fou de rage, évidemment, il s'est relevé, il a déraciné, il a poussé le petit en taille, Nouri, et a déraciné ce bout d'olivier. Et Nouri lui a dit, tu n'aimes pas cette terre. Tu n'es pas un vrai paysan. Alors oui, c'est en voyant ce film, parce que je l'ai vu avec un regard d'Israélien critique, mais d'Israélien, en plus de toutes les autres raisons d'être triste et d'être en colère et d'être enragé, je suis profondément triste de ce qu'est ma société au-delà de la répression ou de ce qu'elle n'est pas.
Larguer les bombes sur la maison blanche. Le 43e prépare une troisième guerre. Haut de sang pour l'essence, leur histoire honteuse des génocides du sang en manne. Au Proche-Orient, la poudrière chez eux, y'a le feu. Leur Mac PC se retourne contre eux. Ils vendent des armes, le regret, ils veulent désarmer l'Irak. Mais ont plus d'une centaine de B-52, 3300 ogives nucléaires. Leur arsenal s'avère dangereux, dangereux. Nombreux sont leurs soldats, 1,5 million exactement, exact sommet. Source d'armement américain numéro 1 dans leur bourse, c'est George Bush, terroriste numéro 2. Numéro 1, le père, 1991, première guerre du Golfe. Aujourd'hui, l'histoire se répète. La colombe de la paix a besoin d'aide, fils. La colombe de la paix meurt de jour en jour. Yaouilleuse, caméra, zoom sur mes rêves éclectiques. Ça va de Carmen Electra, bouche sur la chaise électrique. C'est pas eux les flics de la planète, tu sais. B-boy des quartiers engagés, j'ai l'attitude identitaire, antidote, anti-bouche, anti-mondialisation, royalist, renegade, MC qui ne ferme pas sa bouche. Béance bouche, si le contexte n'a rien à dire, fils. Ciao. j'explose. Fiat Captain America, 1000 combats y aura et mon armée lyrical. Fog leur frappe chirurgicale, leur guerre illégale. Le démon bouge dans sous 51 étoiles. J'explose le bouclier de Captain America. 1000 combats y aura et mon armée lyricale. Fog leur frappe chirurgicale, leur guerre illégale. Le démon bouge dans sous 51 étoiles. Qui est mon ennemi? Fuck et Box, CNN, Fox News, TV, propagande de haine qui bosse et collabore avec George Bush, Néo, Olaco du nouvel holocauste qui veut qu'elle. Ma civilisation, mon peuple vieux de 6000 ans, aujourd'hui bombardé par les avions Kenry. Les USA, pays impérialiste et radin, consacre-toi au développement de la planète. J'balance ma propagande libanaise, trop digne de silence pour leur mort et pour les nôtres. Rien, combien gagnés, causés par leur embargo aujourd'hui. Ça tue pour l'or noir, yo, demain pour l'eau. J'explose le bouclier de Captain America. Ose dire les choses et mon tank fils est lyrical. J'explose le bouclier de Captain America. Ose dire les choses et fuck leur frappe chirurgicale. J'explose le bouclier de Captain America. 1000 combats y aura et mon armée lyrical. Fuck leur frappe chirurgicale, leur guerre illégale. Le démon bouge dans sous 51 étoiles. J'explose le bouclier de Captain America. 1000 combats y aura et mon armée lyrical. Fuck leur frappe chirurgicale, leur guerre illégale. Le démon bouge dans sous 51 étoiles. Leur pseudo-puritanisme, des films hard X leur paie une peine de mort, l'injection létale. Les armes en vente libre, leur politique à la vache cérébrale. Et sur leur drapeau ils veulent plus d'étoiles. J'ouvre ma gueule, jour le bal étale un problème international et fuck them. Fuck leur gouvernement, leur président n'est qu'un redneck tech sans raciste. Royalès, West Biclic fils, West Biclic fils.
PP 106.3, on continue d'écouter les interventions de Michel Warshawski qui avait lieu à l'issue de la projection du film Écrivain des frontières, un voyage en Palestine, le 27 mars 2004. On écoute maintenant la partie de l'intervention. Michel Warshawski évoque l'actualité. Donc on vous rappelle que c'était un débat enregistré le 27 mars 2004.
Je voudrais parler de ce que signifie ou de ce qu'il y a derrière l'assassinat du cher Ahmad Yassine il y a quelques jours. Et à ce propos, Uri Avneri écrivait dans un texte qui a beaucoup circulé sur l'Internet « Pire qu'un crime, c'est une stupidité. » Or, je voudrais, pour une fois, être en désaccord avec Uri Avneri. C'est certainement un crime. Un assassinat ciblé est un crime, quel que soit l'objectif. L'assassinat ciblé d'un dirigeant religieux est un double crime, parce qu'il a une symbolique sur laquelle je reviendrai plus tard, qui va au-delà de l'assassinat d'un chef militaire ou même d'un chef politique. J'imagine ce qui arriverait si en Israël on assassinait non pas Ariel Sharon, le rabbin Ovadia Yosef, qui est l'équivalent du Cheikh Yassine, une autorité spirituelle d'un mouvement politique. Ce serait la croisade, mais on est dans la croisade en fait. C'est donc un crime certainement. Mais ce n'est pas une stupidité. Il s'agit là d'une initiative froidement calculée et qui entre dans un plan d'ensemble d'une très grande cohérence. Et il faut en être conscient. Et j'ai lu un peu, j'étais maintenant pendant quelques jours ici en Europe, j'ai lu un peu la presse européenne, je pense qu'on a souvent passé, y compris la presse de gauche, une certaine presse de gauche, on passe à côté de ce qui s'est passé. Cet assassinat du Cheikh Yassine entre dans un plan d'ensemble. Et ce plan d'ensemble et sa cohérence, on peut la trouver dans une phrase que je cite maintenant souvent, parce que pour moi, elle a été une illumination, une citation d'un de ceux qui ont été les architectes de ce plan d'ensemble, même s'il appartient au Parti travailliste et pas au Likoud, c'était Ehud Barak. Et Ehud Barak qui disait, dans un interview donné au New York Review of Books, je l'ai cité plusieurs fois, donc j'imagine que certains l'ont entendu. Résumer sa philosophie politique, alors philosophie pour Ehud Barak ou Ariel Sharon, c'est un mot un peu lourd, mais résumer sa conception du monde et de l'existence d'Israël. Et il concluait cette interview, un long interview sérieux, parce que le journaliste qui l'interviewait est un homme sérieux, en disant, vous comprenez, nous sommes une villa au cœur de la jungle. Et c'est une phrase dont il faut peser chaque mot. Le conflit israélo-arabe est assimilé à une villa au cœur de la jungle. Alors qu'est-ce que c'est que la villa ? La villa, c'est la modernité, c'est le progrès, c'est le confort, c'est la civilisation. À côté de la villa, il n'y a pas une petite cabane sous-développée. Parce qu'entre les habitants de la villa et les habitants de la cabane, il peut y avoir des conflits sanglants sur l'espace, sur la frontière, sur le robinet, sur plein de choses. Mais entre les habitants d'une villa et des habitants d'une cabane, à un moment, on peut parler. Pas toujours, les histoires se terminent pas toujours bien. Mais on peut parler, c'est pas absurde. Et on a parlé parfois. Et on a négocié. Et on est arrivé à un accord. Parfois, on peut même faire la paix, voire la réconciliation un jour. Le cadre de la perception du conflit israélo-palestinien était celui de la villa et de la cabane. Je dirai deux mots sur la villa après. Mais la jungle, ce n'est pas la cabane, c'est tout à fait autre chose. La jungle face à la civilisation que représente la villa, c'est la barbarie. La jungle, ce n'est pas un élément humain avec lequel on se bat, avec lequel on peut parler, avec lequel peut-être on peut faire la paix. La jungle, c'est nécessairement, c'est des bêtes féroces. C'est une menace existentielle. Une villa au cœur de la jungle est dans une guerre éternelle contre la jungle. Parce que la jungle est quelque chose qui bouge. Et la jungle, c'est les lions, et c'est les tigres, et c'est les léopards, et c'est les serpents venimeux, contre lesquels il faut mener une guerre totale, permanente et préventive. Et que jamais on ne peut arrêter. Parce que dès lors que l'on s'arrête, la jungle reprend du terrain et menace la villa. Ce concept même de cette guerre permanente, totale et préventive résonne dans vos oreilles, évidemment, puisque nous sommes à l'époque de la guerre globale, permanente et préventive, selon la formule de Dick Cheney. Contre quoi ? Contre la barbarie, contre la jungle. La villa contre la jungle, c'est le clash des civilisations. Et la résonance entre les néoconservateurs israéliens, qu'ils soient Barak, Netanyahou ou Ariel Sharon, ou les conseillers d'Ariel Sharon, parce qu'Ariel Sharon n'est pas néo et pas conservateur, lui c'est le Juncker du 19e siècle. Mais cette résonance avec les néoconservateurs, avec les Richard Perl, Wolfowitz et compagnie, est étonnante dans leur perception du monde, de cette villa contre la jungle ou de la civilisation contre le monde barbare. Et il est surprenant de voir à quel point les axes qui caractérisent la politique de guerre contre la jungle en Israël, ou menée par Israël contre les Palestiniens, est identique. Six axes qui sont les mêmes dans la politique américaine menée en Irak, menée en Afghanistan, demain contre l'Iran ou la Syrie, l'Amérique latine. Quels sont ces six axes ? D'abord, elles se présentent comme une autodéfense. Face non pas à un peuple, à un État, à une armée, mais face à un fléau. C'est le fléau terroriste qui est totalement abstrait. Même le mot Al-Qaïda, ça représente une nébuleuse. On dit toujours la nébuleuse Al-Qaïda. Qu'est-ce que c'est une nébuleuse ? Je sais ce que c'est qu'une armée, je sais ce que c'est qu'une nation. C'est une nébuleuse, c'est un fléau. C'est une invasion barbare. Deuxièmement, parce que c'est une invasion et c'est un fléau généralisé, il y a forcément déhumanisation. C'est l'ensemble des hommes, des femmes, des enfants. Il n'y a pas de militaires et de civils. Il n'y a pas de société et de réseau. Il y a un peuple terroriste parce que c'est un fléau. Troisièmement, puisque face à nous, l'axe du mal, le terrorisme palestinien, comme on l'appelle aujourd'hui chez nous, n'est pas une réalité humaine, elle est déshumanisée. Toutes les règles qui ont été établies après la victoire sur le fascisme entre 1945 et 1950 sont abolies. C'est ça l'unilatéralisme. C'est ça en finir avec la charte de l'ONU, les conventions de Genève qui n'ont plus aucune pertinence. Les accords signés n'ont plus aucune pertinence. Parce qu'avec la jungle, il n'y a pas d'accord, de règles, de conventions ou de droits de l'homme. C'est pour ça qu'il y a Guantanamo. Il y a toujours eu des Guantanamo, mais ils étaient hors règles. Ils étaient cachés. Aujourd'hui, Guantanamo, aujourd'hui, l'unilatéralisme, qui sont des violations de ce qui a été les règles de conduite de la communauté internationale, aujourd'hui, elles sont normatives. On n'a plus à se justifier face à des règles, face à des conventions, face à une certaine façon de régulariser le monde. Alors on a parlé souvent de dérégulation dans le champ économique, dans le champ des droits sociaux. Il y a une dérégulation au niveau des relations internationales. Toutes les règles qui ont été fixées, qui étaient loin, loin, loin d'être parfaites, mais qui avaient régulé un peu les relations entre les nations, qui avaient civilisé un peu les relations entre les... ou avaient créé un cadre de civilité dans les relations entre les nations, sont abolies. Mais on avait commencé bien avant Bush, par rapport à la Convention de Genève, par exemple. Cette situation d'impunité où Israël viole systématiquement, publiquement, officiellement, la tête haute, je dirais, toutes les résolutions de l'ONU et toutes les conventions. Quelque part, on anticipait ce qui est devenu aujourd'hui une norme internationale. Et quatrièmement, l'assassinat des dirigeants. Mais surtout l'assassinat des symboles. C'est le symbole dans cette guerre, qui est une guerre de civilisation, le symbole est important. Saddam Hussein à la télévision, qu'on lui cherche, je ne sais pas, dans sa barbe et dans ses dents. L'humiliation de l'ennemi à travers son symbole, ou ce qui est présenté comme son symbole. Arafat dans son trou à rats, enfermé, que l'on veut humilier, qui n'est pas humilié, mais que l'on veut humilier, réduire à moins que rien. On dit, tu veux un empire, tu veux un État palestinien, voilà ton État palestinien, une pièce et demie. Tu veux des voitures pour tes officiels, voilà ce qu'on en a fait, et on les repasse. On les a vues, les voitures repassées, écrabouillées, réduites à une dizaine de centimètres. Sheikh Yassine est un symbole. Et on ne le souligne pas assez. Il est un symbole. Et c'est dans ce qu'il est un symbole qu'il devient un objectif prioritaire pour les assassinats ciblés. Contrairement à ce qu'écrivent certains journaux, et même malheureusement Ouri Avneri. Ce n'est pas une erreur. Ils se sont trompés. Oh là là, ils ne savent pas qui c'est Sheikh Yassine. Ils ne savent pas la symbolique de Sheikh Yassine pour des millions de d'Arabes, pour l'ensemble des Palestiniens d'ailleurs, même les plus laïcs, et pour des millions et des millions d'Arabes et des dizaines et des dizaines de millions de musulmans. C'est précisément parce qu'il est le symbole, parce que lorsqu'on est dans une guerre de civilisation, c'est le symbole. On ne triche pas. On va droit au but. Cinquièmement, et là c'est le parallèle est trop surprenant, c'est la recolonisation. La politique aujourd'hui des néoconservateurs, la politique qui est mise en œuvre à travers la planète depuis quelques années et qui va l'être de plus en plus si on ne l'arrête pas, c'est la recolonisation du monde. Cette barbarie, il faut la recoloniser et on revient presque à l'Empire romain. Coloniser les barbares, les soumettre, ce n'est plus les relations internationales de l'ère qui succède au fascisme et à la décolonisation, des rapports pseudo-symétriques. C'est à nouveau, c'est les barbares qu'il faut recoloniser, à qui il faut nommer le gouvernement, pour lesquels il faut décider quel type d'économie, que l'on gère, que l'on prend sous contrôle, que ce soit l'Afghanistan, que ce soit l'Irak. La recolonisation de la Palestine est tellement symbolique de cette recolonisation du monde en petit. On recolonise dans tous les sens du terme. On reprend le contrôle. S'il y a eu un petit moment de décolonisation, d'idée qu'il y a une autonomie, il y a quelque chose, il y a une entité qui existe, c'est ça la reconnaissance mutuelle, c'est ça l'acquis de seul peut-être, mais l'acquis d'Oslo, la reconnaissance de l'autre, il existe, il a des droits, lesquels ça se discutera et ça se négociera. Voilà qu'on entre à partir de juillet 2000, avant l'intifada et bien avant le terrorisme, on entre dans la recolonisation. Vous n'êtes pas des sujets avec lesquels, pas égaux, mais au moins avec un rapport de réciprocité. Vous êtes des sujets dans le sens, vous êtes nos sujets. Et tant que vous ne l'accepterez pas et vous ne le comprendrez pas, on sera obligé d'utiliser le gourdin pour vous le faire comprendre et le faire entendre. Et le dernier de ces éléments, qui est aussi israélien, mais aussi plus global, c'est l'enfermement. C'est le mur. Entre la barbarie et la civilisation, il faut une muraille de Chine. Et une muraille de Chine qui se crée, et vous créez votre propre muraille contre votre barbarie. Ça s'appelle Schengen. Schengen, c'est un mur que l'on crée autour de la civilisation européenne face au monde qui la menace extérieur, cette barbarie qui la menace. Alors nous créons notre mur. Il est devenu emblématique de ces murs qui se créent à travers le monde. C'est le mur entre la villa et la jungle. C'est le mur entre la villa et la jungle, parce qu'une villa qui est au cœur de la jungle a besoin de murs aussi hauts que possible et de faire des incursions dans la jungle, brûler tout autour, revenir derrière ces murs, et ceci dans une guerre totale et permanente.
Baraka